Ça marche ?
Ça marche !
Alléluia. Un petit truc. C'est parti. Voilà. Donc, je vais vous parler d'un sujet un peu particulier qui s'appelle la loi. Mais avant tout, je voudrais rebondir quand même sur ce qu'a dit Manuela, parce qu'il faut le garder à l'esprit tout le long du message. Il ne faut pas oublier que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Donc personne n'accède au salut par les œuvres de la loi. Personne ne peut dire « je mérite quelque chose de la part de Dieu parce que je fais les œuvres de la loi ». Ceci dit, parce qu'on a eu cette compréhension qu'on est justifié par les œuvres, par la foi en Jésus, par le sacrifice de Jésus, on a dit, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Qu'est-ce qu'on fait de cette loi ? Qu'est-ce qu'on fait de cette loi ? Pourquoi ? Est-ce qu'on jette tout à la poubelle ? Hop ! Alors, on est justifié par la foi. Ouitch ! On ne sait plus quoi faire. Alors, mon sujet, on va dire, c'est vraiment l'étude de qu'est-ce que c'est la loi et comment Dieu voit la loi et comment nous devons la voir. D'abord, la loi, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Pourquoi on a la loi ? Alors déjà, d'après la définition du Larousse, je vais beaucoup lire parce que, quelque part, c'est un message, j'ai mis des années à le comprendre. J'ai mis 15 minutes pour le recevoir. J'ai presque un peu dicté. Le Saint-Esprit m'a presque dicté ce message. Je veux dire, c'est une synthèse de la compréhension de quelques mois et d'années même, je dirais, de recherche. Et du coup, j'ai tout écrit. Donc, je vais tout lire pour ne pas dévier. Bon, la définition d'une loi, à quoi ça sert ? Charles Larousse dit que prescription établie par l'autorité souveraine de l'État, applicable à tous et définissant les droits et devoirs de chacun, selon la loi en vigueur. C'est ce qu'on dit. Hein. C'est un ensemble des règles juridiques, des prescriptions, des lois. Nul n'est censé ignorer la loi, encore moins la loi du royaume. C'est des règles de conduite, conventions établies par les membres d'un groupe, par la morale ou la vie sociale. Exemple, loi de l'hospitalité, loi de la jungle. Principe général, jugé comme déterminant les choses, les hommes, le fonctionnement d'un ensemble. Il faut manger pour vivre, c'est la loi de la nature. La loi de la gravité, c'est que si je saute par la fenêtre, je tombe. Logique. Et personne, il ne me semble pas, a eu l'idée de contester avec Dieu cette loi, de dire « ça m'embête, je préfère prendre les raccourcis plutôt que les escaliers, j'aimerais passer au-delà de cette loi, je saute, Seigneur, ta grâce est là, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. » Et hop, je crois que personne n'a eu cette idée. Par contre, on conteste d'autres lois, c'est ça le problème. Il faut dire qu'il n'y a pas de royaume sans loi. Il n'y a pas de royaume. Tout royaume a ses lois. Et le royaume de Dieu a ses lois. On est sous la grâce, on ne va pas l'oublier. On est sauvé par le sang de Jésus, par la foi. Mais tout royaume a ses lois. Alors, les buts de la loi du royaume. Alors, je veux dire aussi, entre parenthèses, que Dieu n'est pas enfermé par ses lois. C'est-à-dire que s'il veut arrêter le soleil, il arrête le soleil. S'il veut marcher sur la mer, il marche sur la mer. Il n'est pas enfermé par ses lois. C'est vrai que ça résonne. Alors, pourquoi la loi ? Alors, le but de la loi du royaume, c'est établir une conduite juste parmi les hommes. Comment ? se conduire dans, parmi nous, dans la société, c'est avoir une combien, comment avoir une conduite juste parmi les hommes grâce à la loi. Les lois de l'Ancien Testament, enfin, tout ce qu'on a dit, bon, on n'est plus sous la loi, sont toutes les règles qui nous ont été données par Dieu pour savoir quoi faire dans toutes les situations, que ce soit en société, que ce soit entre nous, que ce soit envers notre prochain. Il y a la loi sur le travail, la loi sur le repos, la loi sur l'économie, la loi sur l'argent, la loi sur les dettes. Est-ce que c'est juste? Est-ce que je peux? Pourquoi ne pas être paresseux? Pourquoi ne pas être paresseux? Parce qu'il est écrit. Pourquoi je ne peux pas voler? Parce qu'il est écrit. Et en fait, la loi de Dieu, pour laquelle on a tellement peur, c'est un mot global qui regroupe toutes ces règles de vie, tout simplement, toutes ces règles de vie. Et donc comment on peut dire? Je refuse toutes ces règles de vie. Je ne veux plus être sous la loi. Je refuse toutes ces règles de vie. Ce n'est pas possible. On a besoin des règles de conduite, de vie. Et on ne peut pas juste dire, ça m'arrange, ça ne m'arrange pas. Et Proverbe 13:13 dit, « Celui qui méprise la parole le paiera. Mais celui qui craint le commandement en aura la récompense. » Que dit Jésus au niveau de la loi? Matthieu 22, 36. Quelqu'un lui pose la question. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Je dirais que Jésus met la barre même encore un peu plus haut. Car obéir à la loi sans le cœur, on peut le faire. On peut dire, ouais, j'ai envie de le tuer, celui-là. Mais je ne vais pas le faire parce que j'obéis à la loi. Et Jésus va dire, il va même éprouver nos motivations, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. C'est pas seulement tu as obéi à la loi, c'est bien, mais pourquoi tu as fait? Et là, c'est déjà un peu plus... Parce qu'on peut se planquer derrière. Ouais, moi, je l'ai fait. Hein. Et Matthieu 5, 17. « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. » Je ne suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Royaume des cieux, loi du royaume. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dit à son frère « raca », stupide, en d'autres termes, idiot, crétin, bref, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira « insensé, idiot », mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et pouf! C'est pas seulement je ne l'ai pas tué, je n'ai rien fait. C'est non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Une autre erreur que nous faisons aussi, c'est que nous jugeons nous de la gravité d'un péché. Regardez avec envie notre femme et notre homme est volé, c'est pas la même chose que tuer. Enfin, je sais pas, moi, tuer, c'est quand même plus grave que dire j'ai regardé telle ou telle personne avec envie et voilà, ça, c'est dans mon cœur. Nous, on décide de la hiérarchie de ce qui est bon, pas bon, juste, pas juste, ça c'est plus important, ça c'est moins important, puis on s'érige en juge en disant, ben voilà, là tu es coupable, toi sinon, toi ça va, à peu près, toi tu peux être... Mais mince ! Non, le péché, c'est un péché. Dieu ne fait pas de hiérarchie dans le péché. De ce qu'a dit Manuela tout à l'heure, Romains 3:23, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il ne faut pas donner un ordre d'importance à une partie de la loi parce que ça nous arrange, quoi. Et je dirais même que le gouvernement, nous donnons un ordre d'importance parce que la France a pris, le gouvernement français a pris un certain nombre de lois qui les a appliquées dans les constitutions. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. C'est aussi, c'est pas seulement écrit dans la Bible, mais c'est aussi dans la constitution. Et nous, on se base un petit peu là-dessus en disant, mais voilà, ce qui est dit par la loi, je ne fais pas, je suis à couvert. Pouf, je suis juste. Et puis, Jésus dit, non, c'est pas comme ça. Un péché reste un péché. C'est vrai que tous les péchés n'auront pas la même conséquence. Je veux dire, l'adultère, la conséquence de l'adultère, ça va briser la relation, il y aura un divorce, il y aura des conséquences extérieures plus graves. Mais on ne peut pas regarder à la gravité du péché selon la culture ou selon les lois du pays. C'est au regard de Dieu, comment Dieu voit les choses. Pour Dieu, tout péché conduit à la rupture avec Dieu, tout péché. C'est une conséquence intérieure, ce n'est pas un acte extérieur. Et c'est pour ça qu'on revient à la justice. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus et pas par l'observation de la loi. Parce que qui est capable de dire « je n'ai jamais péché » ? Donc qui est capable de dire « moi, il n'y a pas de rupture entre moi et Dieu » ? Ce n'est pas vrai. Donc il nous faut abandonner notre standard d'évaluation car il est faussé. Et en plus, notre standard d'évaluation nous rend orgueilleux et juges. Parce que nous estimons que nous sommes moins coupables que tel ou tel. Alors, hein ? Or, c'est le péché qui a conduit Jésus à la croix. Le péché, pas le péché plus important, le moins important, le péché. Et je veux dire, il est écrit dans Ésaïe 53, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé, nos péchés. Et le péché... Oui, d'ailleurs, les gouvernements entre nous, ils parlent de transgression de loi, voler, tuer, etc. Mais ils ne parlent pas de péché. C'est pas écrit. Vous avez péché là, donc vous êtes puni. Donc, savoir qu'on est tous au même niveau de gravité intérieure aux yeux de Dieu nous rend humbles. Alors, pas de propre justice. Simple, comme ça on ne peut pas dire. Moi, j'ai rien fait de mal. On n'est pas plus pur, plus saint. On est tous en chemin vers Christ parce qu'il m'ouvre les yeux à la gravité de la loi et je rectifie à la loi et obéis à ce que le Saint-Esprit me montre et ainsi de suite. Ah oui, une petite note de côté. Et le Saint-Esprit va travailler chacun de nous individuellement au niveau où il en est et de ce qu'il a besoin, ou là où il a besoin de comprendre et d'évoluer. Il ne va pas faire avec tout le monde pareil. Il ne va pas révéler la même chose à tout le monde parce que tout le monde n'est pas capable d'entendre la même chose. Il va nous en prendre. Et c'est ça qui est fantastique avec Dieu, c'est qu'il va nous prendre là où on est pour nous emmener un pas plus loin. Il ne va pas dire « je suis là, venez là ». Il va nous rejoindre dans notre marche. Il va nous rejoindre là où on en est de la compréhension et il va nous emmener un pas plus loin. Et je trouve ça fantastique parce que c'est Dieu, c'est le grand Dieu. Et il se met à notre portée pour nous faire progresser. Donc, pas de comparaison. Voilà. Fini la lecture. Matthieu 23, 1. Parlant toujours de ce que Jésus pense de la loi. Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, hein, la loi. » Faites donc et observez tout ce qu'ils disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Mais il ne dit pas ne faites pas, mais faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. On ne jette pas la loi à la poubelle. Car ils disent et ils ne font pas. Et là, on revient aux motivations. Je dirais, il faut, mais Pourquoi tu ne fais pas hein ? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme, la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ça qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. La motivation, le cœur, pourquoi ? Mais ça ne vous... C'est parce que le cœur n'y est pas que, hop, moi j'ai pas le cœur, je fais pas. Non, il faut obéir. Jésus rappelle qu'aimer, c'est obéir et mettre en pratique toute la loi. C'est, puisqu'il a dit tout à l'heure, enfin ce que j'ai lu tout à l'heure, aimer Dieu et aimer son prochain, c'est le résumé de la, toute la loi et les prophètes. On pourrait essayer d'obéir à la loi comme le jeune homme riche. J'ai tout fait. À qui il ne manquait qu'une seule chose. La bonne motivation. L'amour, la compassion. Donne aux pauvres. Ah ben là, non. Je veux bien tout faire. Mais pas donner, faire suffisamment, aimer suffisamment. Le faire par amour, le faire par compassion. Donne tout ce que tu as aux pauvres. Non. Et il est reparti tout seul, tout triste. Donc, ne pas essayer de tenter, d'être tenté de faire, d'obéir à la loi pour plaire à Dieu et par ses propres forces, parce que ça ne sert strictement à rien. Et on peut aussi faire le constat que c'est juste pas possible. C'est trop difficile. Et en plus, on n'y comprend rien. Il faut comprendre aussi que la loi, constater l'interdiction, suscite facilement la transgression. C'est parce qu'on sait qu'il ne faut pas qu'on a tendance à faire. Parce que c'est une tendance naturelle à passer par-dessus ce... qui n'a jamais eu envie de passer outre les interdits. Hein ? Alors, c'est aussi un des buts de la loi. C'est-à-dire, la loi nous donne toutes les règles de vie. Mais la loi a un autre but. Et c'est aussi important. Elle nous donne les règles de vie, ok. Mais sans la loi... S'il n'y a pas de loi, je ne sais pas que j'ai fauté. Je ne sais pas que je suis coupable. C'est parce que la loi est là, et ce que tu disais tout à l'heure, c'était parti, c'est parce que la loi est là que je sais que j'ai fauté. Le but de la loi, c'est de révéler la nature pécheresse qui est en chacun de nous, parce qu'elle met en lumière ce qui est caché. Romains 3, 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors, dire on met la loi de côté, c'est aussi, quelque part, se protéger de dire ben, « je vois pas ce qu'il y a de mal ». Je ne vois rien. Romains 7, 7. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Mais loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, toujours dans Romains 7, et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. C'est la loi qui... Bon, ça, c'est... je lis juste la Bible. Hein. Ce n'est pas des interprétations, c'est Romains 7, de 7 à 24. Et c'est Paul qui parle et qui dit, en fin de compte, c'est parce que la loi est là que je sais à quel point je suis pécheur. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint... Le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Loin de là. Mais le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, et moi, je suis charnel, vendu au péché, car je sais Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par loi que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et mince, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, dans ma chair, car j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, c'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Paul avait expérimenté là vraiment tout le constat de la loi. Il a été en face à face, il a dit voilà la loi est juste, la loi est bonne, la loi est de Dieu, la loi c'est la vie. Et voilà comment moi, charnellement, humainement, je réagis à cette loi. Misérable que je suis. Alors, sortir de là, misérable que je suis, qui nous me délivrera de ce corps de mort? Première piste, Galates. Pourquoi la loi? Galates 3, 24. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas la mettre de côté, on ne peut pas l'ignorer, parce qu'en l'ignorant, on ne va pas à Christ. En prenant connaissance de la loi, elle nous conduit à Christ afin que nous puissions être justifiés par la foi. Je n'ai besoin de Christ que si je sais que je suis pécheur et que je n'ai pas le moyen d'obéir à la loi à cause de mes motivations et de mes faiblesses. La loi me montre à quel point je suis, car la réalité de mon obéissance à la loi est loin des standards de Dieu. Et la réalité de mes motivations, selon Jésus, c'est pire encore. Alors, si je fais l'autruche en me disant que je n'ai pas besoin d'obéir à la loi parce que je suis sous la grâce, j'ai tout faux. Parce qu'alors, je n'ai pas besoin de Christ. C'est la réalité de mon impossibilité à obéir qui me pousse vers la seule solution possible, Christ. Galates 3, 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Donc c'est un peu catastrophique. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-mêmes, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu aux croix, au bois. » Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, afin que nous reçussions, un peu, hein, par la foi, l'Esprit qui nous a été promis. En ne fuyant pas nos responsabilités par rapport à la loi, en la cherchant, en essayant de la comprendre et de voir comment la mettre en pratique, nous pousse vers Christ pour avoir le pardon parce qu'on ne peut pas. Deuxièmement, recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, détourner nos yeux de la loi. Quelque part, nous prive de la plénitude de la foi et nous prive de la plénitude de la présence du Saint-Esprit. C'est de voir la loi qui nous fait voir la croix. Parce qu'il a été, il est devenu malédiction pour nous à cause de la loi. Galates 3, 11, que nul soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Et oui, le juste vivra par la foi. Romains 7, 25, grâce soit rendue par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi donc, Moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave du péché. Romains 8, qui est juste après d'ailleurs, 7:25, 8:1. Donc, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de la vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Et Romains 3, 24 dit, ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, la loi nous conduit, prendre vraiment conscience de la réalité de la loi nous conduit à vivre les promesses de Dieu, justifiées gratuitement par sa grâce, et vivre complètement la foi et vivre complètement la présence du Saint-Esprit. Ensuite, Dieu promet aussi, Deutéronome 36, « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Dieu veut purifier nos cœurs, notre rébellion, nos motivations, pas nous exclure de la loi, mais mettre sa loi dans notre cœur, toute la loi, pour que nous puissions obéir à ses commandements, aimer Dieu, aimer notre prochain. Donc, il faut comprendre le processus de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de la loi parce qu'elle est difficile, on ne la comprend pas et on se dit, bon, on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi, alléluia. Au contraire, il faut regarder à la loi dans toute, quelque part, sa difficulté par rapport à nous en disant, mais oui, on n'y arrive pas, on ne sait pas, on ne peut pas. Mais faisons pas l'autruche. Au contraire, allons devant Dieu parce qu'il a fait, il nous a donné des promesses. Je changerai votre cœur et il mettra sa loi dans nos cœurs. Parce que c'est comme ça qu'on est disciple de Jésus. Un disciple de Jésus, il connaît les lois du royaume, il les applique et il les instruit. Et il les fait suivre. Jésus n'a pas dit allez de toutes les nations, faites des croyants, faites des disciples. Les disciples connaissent les lois du royaume et les instruisent à d'autres. Jean 15, 17. Pourquoi aussi connaître la loi? Pourquoi chercher à la connaître? Chercher à voir qu'est-ce qu'elle dit dans telle ou telle situation, dans telle ou telle... dans un conflit, au niveau de l'économie, au niveau de l'argent, au niveau... peu importe, de la nature, toutes ces lois qui régissent quelque part la vie sur Terre, pourquoi les chercher à connaître pour devenir de Jésus? Mais pas seulement. Jean 15, 17, je veux dire beaucoup de choses. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et par ailleurs, il est écrit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Obéir à la loi, ce n'est pas forcément facile. Mais le Saint-Esprit, Dieu ne nous a pas dit que ça va être facile. Il va dire qu'on aura de l'aide. Ce n'est pas pareil. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie en vous soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ainsi mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et là, on revient au lien entre la loi et l'amour. Comment savoir si j'aime quelqu'un? Comment savoir mettre en pratique l'amour? Comment mettre en pratique les commandements? Comment je sais? Je sais parce que je sais ce qui est écrit dans la loi. Alors, on ne doit pas fuir la loi à cause de nos faiblesses. mais je dois sincèrement et honnêtement venir devant Jésus à chaque fois que je vois une limite chez moi. On doit faire l'effort de chercher à la connaître plus profondément, de l'étudier, de la méditer, parce que c'est une source de vie et le mode d'emploi pour vivre une vie par l'esprit. Car l'esprit ne va pas contredire la loi. Il n'y a pas de division au sein de la Trinité. Jésus y était aussi. Et il est illusoire de vouloir aller se réfugier chez Jésus, sous la grâce, pour échapper à la loi. Là, on se trompe complètement. C'est comme si un enfant, quand il se fait reprendre par sa mère parce qu'il n'a pas rangé sa chambre, et qu'il va se réfugier à son père pour échapper au rangement. Si ça marche comme ça, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'en général, la maman dit à l'enfant, il a raison, va ranger ta chambre. Le Saint-Esprit, Jésus, ne va pas dire, ouais, c'est difficile d'obéir à la loi. Viens chez moi, passer un temps dans ma présence pour être tranquille, pour échapper à la loi. Non, le Saint-Esprit nous aide à obéir à la loi. C'est pas pareil. Jésus, Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et là, on parle de Jésus. Donc, il était là quand il... ont été faites les lois. Donc il faut vraiment rechercher la parole de Dieu avec persévérance. Il faut vraiment se mettre à l'étude de la loi. Il faut vraiment qu'elle reprenne vraiment sa place importante, essentielle. Deutéronome, et ne pas vouloir diviser la Trinité. Deutéronome 6:4, hein, c'est la prière que commencent souvent les Juifs dans les temps spéciaux. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un et trois en un, la Trinité. Il n'y a pas de division. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et aux portes de tes villes. Comment le monde va savoir quels sont les rois du royaume ? C'est d'abord on les applique et on les fait connaître. Comment répondre à toutes les questions que le monde se pose à tous les niveaux, dette, argent, investissement, telle ou telle situation, il est écrit. Voilà. Comment savoir si mes choix sont justes ? Il est écrit. Est-ce que j'ai le droit de boire du vin ? Il est écrit. Est-ce que j'ai le droit de manger du cochon ? Il est écrit. Alors ça, chose, c'est une petite parenthèse à ce niveau-là, parce qu'il est écrit que les Juifs ne devaient pas manger du cochon. Et bon, on a dit, c'est parce que Dieu savait que règles d'hygiène, maladies trimballées par les cochons, etc., etc. Nous, 20e siècle, on s'est dit, on a trouvé des solutions, on donne des antibiotiques aux cochons. Comme ça, il n'y a plus de problème de bactéries. Sauf que là, actuellement, on est en train de développer des résistances aux antibiotiques parce que les cochons en sont farcis. Et pas que les cochons. Mais bon, on parlait du cochon parce que est-ce que j'ai le droit, on m'a posé la question un jour, est-ce que j'ai le droit de manger du cochon ? Certes, mange du cochon, mais... Et voilà, et chacun doit voir qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Ça, c'est vraiment chacun individuellement avec le Saint-Esprit. Mais il faut comprendre que Dieu sait pourquoi il a mis certaines lois. C'est ça qui est intéressant dans ce pourquoi il m'a dit de ne pas manger du cochon ? Enfin, où est le problème ? Se laver les mains, enfin bref, etc. Mais Dieu sait. Mais on n'est pas sous la loi dans le sens que c'est à nous, individuellement, de savoir qu'est-ce que Dieu veut faire avec notre vie. Mais on ne doit pas méconnaître la loi, on ne doit pas l'ignorer, on ne doit pas la mettre de côté, on doit l'étudier. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, pour y prendre plaisir, il faut la connaître. Et voilà, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il y a un petit intérêt quand même à connaître la loi. Parce que je pense, qui ne veut pas avoir la réussite dans sa vie, hein? Ensuite, on arrive presque au bout. Éphésiens 4:1. Oui, j'oublie un truc. Oui. Alors, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs et pasteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi par la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour ou la charité, la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Car c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formé et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, ce n'est pas en diminuant la valeur de la loi ou l'importance de la loi qu'on peut aller se réfugier sous la grâce et dire bon ben voilà j'y échappe. Je pense qu'on doit vraiment se repentir d'avoir vu la loi de manière un peu dédaigneuse, limite l'avoir méprisée, mis de côté pour dire je marche par l'esprit, pour avoir voulu diviser la Trinité ou même chercher à le faire de manière inconsciente, à se réfugier dans la louange, dans l'adoration pour échapper à la loi. On dit, nous, on sommes un peuple qui loue. Donc, on n'a pas besoin de la loi. Non. Mais je pense qu'il faut vraiment retourner à une étude dans toutes les circonstances, dans toutes nos règles de vie. Oui, bon, ne pas se mettre sous la loi, on a compris, parce que là, on l'a vu au début, on est sous la grâce pour que le Saint-Esprit nous enseigne toute la loi, pour pouvoir l'appliquer, pour pouvoir la mettre en pratique, pour que son règne vienne avec ses lois, pour qu'on connaisse les lois du royaume, pour qu'on puisse les vivre, les mettre en pratique, les enseigner. Et on va se mettre sous la grâce, là c'est pour reprendre l'expression parce que on dit on n'est pas sous la grâce, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. C'est pour reprendre cette expression-là que je dis de cette manière. On est sous la grâce, oui, mais pas pour oublier la loi, mais au contraire pour la comprendre et pour la mettre en pratique. Chacun doit être attentif à ce que Dieu dit, parce que il y a un travail qui va être individuel. Dieu va nous prendre chacun à notre étape pour nous emmener à l'étape d'après. Et puis après, il va y avoir une action collective quand même. Ce qui m'a ce qui m'a frappée dans le timing de ce message, c'est, donc je l'ai reçu, on va dire, pratiquement 10 minutes ou 15 minutes un matin en me levant. J'ai dit, voilà, tatata, j'avais un petit peu toute la trame. Et entre-temps est venu le mail concernant l'Assemblée Générale. Et ça m'a fait penser vraiment à deux chroniques 34. Alors, deux chroniques 30, c'est vraiment intéressant parce que il y a vraiment toutes les histoires de rois, comment ils ont fait, comment ils n'ont pas fait. Et il y a l'histoire de Josias. Arrive Josias, il avait 8 ans quand il devint roi. Et la 8e année de son règne, c'est la 12e année, il commença à purifier Juda des idoles, et pof, on renverse les balles, on enlève les idoles. Il purifia ainsi Juda, Jérusalem, etc. Il se remet la 18e année de son règne, après qu'il ait tout purifié, il se remet à travailler aux réparations de la maison de l'Éternel. Alors comme dans le mail, je n'ai pas tout lu le mail, mais il parlait justement de Agé, et Agé parle de la réparation de la maison de l'Éternel. Et j'ai vu que Josias, il a commencé par là, il a commencé par la réparation de la maison de l'Éternel. Et pendant qu'il faisait cette fameuse réparation, d'un coup, à un moment donné, Ikija, qui était sacrificateur, d'un coup dit, j'ai trouvé le livre de la loi donné par Moïse. Et on apporta le livre de la loi, et puis d'un coup on se rend compte qu'on a zappé d'obéir à la loi. Et puis d'un coup il découvre ce livre, et lorsque le roi a entendu ces paroles, les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et mince, grande est la colère de l'Éternel sur nous, parce que nos pères n'ont pas observé la parole de l'Éternel et n'ont pas mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Donc il y a eu un repenti, et à la fin, plus loin, bon, là, je ne veux pas tout lire parce que c'est sous 2 Chroniques 34, l'Éternel parle à Josias, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant les paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Donc, ouais, il y a eu un réveil, on va dire une modification de tout le pays d'Israël, parce qu'on a pris en compte avec sérieux le livre de la loi. La réparation de la maison de l'Éternel et le fait de retrouver le livre de la loi. Je pense qu'on a beaucoup de domaines dans lesquels on a besoin de creuser pour savoir que dit Dieu, que dit la parole de Dieu dans telle situation. Comment faire? Comment mettre en pratique? Comment mettre en pratique l'amour? Comment mettre en pratique l'amour envers Dieu, envers le prochain? On a vraiment besoin de ça. On a besoin d'y revenir. J'avais vraiment à cœur ce message parce que j'ai eu longtemps, un espèce de dilemme entre sous quelle loi je suis, les 10 commandements, mais les autres, qu'est-ce que j'en fais? Et puis, qu'est-ce que je cherche? Je n'ai pas besoin de chercher. Enfin, c'était un peu complexe, l'histoire de la loi. Ce n'était pas très clair dans ma tête, vu qu'on était sous la grâce. Et c'est devenu clair qu'il faut vraiment chercher à... Et toute la formation que je fais va un peu dans ce sens-là, à approfondir la loi sur les sujets, en fonction des sujets, et en même temps de reconnaître vraiment que cette loi qu'on ne peut pas obéir en totalité à la perfection nous pousse de plus en plus vers Christ, à dire j'ai besoin de toi, parce que tu as porté tous mes péchés, tous les manquements à ma loi, tu les as portés à la croix, ils ont été crucifiés, je suis pardonnée parce que tu as porter tout ça à la croix, tu m'as justifié, non pas parce que j'obéis à la loi, je suis justifié parce que tu as pris tout ça à la croix et que je peux recevoir le pardon. Donc l'un va pas sans l'autre. Et parce que je suis pardonnée, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont compris ça, accepté ça, et à ce moment-là, je peux avoir la paix, rentrer dans les œuvres préparées d'avance, non pas pour plaire à Dieu, mais pour vivre ce que Dieu a prévu pour moi, les œuvres préparées d'avance, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Amen.